France Inter.
Bonjour, c'est Denis Chessou. Parole de Piaf, c'est un podcast en 6 épisodes. La montagne nous attend à la découverte de l'aigle et de ses aiglons.
Eh bien, on va aller voir les aiglons s'ils se sont envolés. Mmh. On va parler doucement, marcher doucement. Et puis, on va aller rejoindre l'affût en douceur. Là, regarde à travers les branches, là. Ouais. Les aiglons qui sont prêts à partir. Ils sont deux dans cette aire-là. Donc, c'est bien parce que cette année, sur la zone dont on s'occupe, nous, il n'y a que deux sites où il y a deux aiglons pour un couple. C'est pas mal. Et on est sur un des deux. On voit l'air, oh là là, on dirait qu'il n'y a plus personne là. On va aller s'installer.
Dans la famille des 560 rapaces du monde, je veux l'aigle, celui, oui, qui habite et qui habille nos vallées montagnardes. Animal symbole, s'élevant au-dessus des nuages et fixant le soleil. Un emplumé à la fois solaire et céleste. Oiseau de Zeus, et si les Amérindiens, les Indiens portent des plumes d'aigle sur leur coiffe, c'est pour s'identifier au rayonnement solaire. Et ouais, tout le monde est fasciné, des Aztèques aux chamans sibériens, de Saint-Jean aux Romains, de Napoléon au drame de son fils. Et justement, on va s'intéresser aux jeunes, oui, qui terminent mieux qu'un drame d'Edmond Rostand, l'aiglon. Christian Couloumi vit en bordure du Parc National des Écrins, et qui est devenu d'ailleurs un grand parc à moutons, dont il fut un bel acteur 40 ans durant. Et donc il poursuit son œuvre naturaliste comme président de l'association Envergure Alpine, qui observe, récolte des informations, protège, fait de la pédagogie sur les rapaces, principalement, on va dire, le gypaète, le vautour, le percnoptère, et sans doute le plus connu, la star, l'aigle, l'aigle qui règne en couple sur un vaste territoire. Alors Christian, on le sait, c'est une pointure depuis longtemps dans ce domaine, et ce raconteur du vivant m'a emmené chez lui dans les Hautes-Alpes, c'est superbe, fin juillet, à la découverte de l'aiglon et de ce moment rare, le premier envol. Alors où sommes-nous? Eh bien, je veux dire, entre Embrun, Gap et Serre-Ponçon. Ah ben ouais, on ne dira jamais où précisément, parce que les coins à aigle, c'est comme les coins à champignons, ça se dit pas.
On est en train de déplier le matériel. C'est un affût dans la journée. C'est pas la nuit. Ah oui, là, pile poil, on voit donc l'air.
Voilà, on voit l'air avec... Bon, c'est un amas de branches, bien sûr. Il n'y en a plus qu'un. L'autre est parti. Et celui qui reste, il est un peu camouflé dans le buisson de droite. À droite de l'air, il est tout noir, là, en ce moment, ils sont noirs. Là. Le premier plumage est très, très sombre, pratiquement noir.
Alors c'est presque une réussite en fait qu'il y en ait deux, parce que la femelle va pondre quoi, 3 ou 4 œufs peut-être,
et encore plutôt deux. Oui.
Et puis il y a quand même de la castagne, lorsqu'il y a l'aîné qui est clos, j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelait du caïnisme comme Caïn et Abel, quoi. Donc ça se termine mal cette affaire.
C'est le grand frère qui martyrise le petit frère, c'est spontané, c'est comme un coucou qui vire les œufs, l'aiglon, son karma c'est de virer son frère ou sa sœur. Et s'il a un peu d'avance, quelques jours, en général, il y a 2-3 jours d'écart entre les éclosions, qui correspondent d'ailleurs à l'écart de la ponte, des moments de ponte, il le vire, et vraisemblablement que ça correspond à la nécessité de conserver les meilleures chances à au moins un des oiseaux. Alors s'il y a assez à manger, ils vont y arriver tous les deux.
Il vint au monde tel un prince. C'est ainsi que je le vis dès ses premiers instants. Parce qu'à mes yeux, ses parents étaient le roi et la reine de ma vallée. Le jour viendrait où ils devraient remettre leur couronne à leur héritier. Mais ce ne serait peut-être pas lui, car il était né le second. C'est ainsi qu'à peine venu au monde, ils ne furent pas seulement frères, mais rivaux.
Alors, on va rappeler quand même l'ordre des choses, c'est-à-dire qu'on a eu une éclosion donc au printemps. On a eu avant donc la période des amours et de reproduction. C'était quoi, février?
Oui, c'est l'hiver. Ils commencent période des amours, période du cantonnement. Ils marquent leur territoire. Ils le marquent par des mouvements du vol aérien très spectaculaires. Et puis après, il va y avoir les accouplements au mois de février-mars, là, mars en particulier.
Et ce sont des amours aériennes.
Hein. Oui, les préliminaires, mais l'accouplement se fait sur le dur.
C'est ça.
Les pieds au sec.
Oui, voilà. Oui, pour être plus tranquille. Non, mais
faut quand même pas.
Et on s'accouple quand on a 4-5 ans à peu près, on est reproductif.
Oui, l'âge de reproduction, c'est ça. Ça correspond d'ailleurs au plumage adulte. Ils ont un plumage qui va évoluer avec le temps, au fur et à mesure des mues. Et du noir dont je parlais, avec du blanc dedans, évidemment. Ouais. Le blanc va devenir un peu plus beige et le noir va devenir un peu plus marron. Donc on va tourner vers un oiseau qui est plus couleur de chocolat, un petit peu. Les adultes. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont efficaces pour la reproduction.
Et la mue, en fait, elle est permanente. C'est-à-dire qu'on change ses plumes en permanence quand on en a une qui ne fonctionne plus.
Oui. Alors, c'est pas quand elle fonctionne plus, c'est qu'il y a des processus internes, c'est tout écrit. Et à un moment donné, c'est l'heure de changer les plumes. Mais alors, il y a un ordre bien établi qui est connu. Hein. Alors, c'est assez compliqué. Et c'est pas le même chez tous les oiseaux. On le voit très bien ici, d'ailleurs, là, les longs.
Ah là là,
voilà.
Ah ouais.
Vous voyez, Denis, ah, c'est le petit aiglon, là. Alors, l'autre, on ne sait pas où il est, là. On va regarder s'il est dans le coin.
Ouais.
Parce que à cet âge-là, il peut très bien ne pas avoir fait le grand saut. Ce n'est pas le grand soir, le grand saut, hein, c'est franchement.
Puisque vous avez à la fois, j'allais dire, la longue vue, l'appareil photo, vous ne le shootez quand même, parce qu'on va le mettre sur le site de CO2 Mon Amour, hein, celui-là. Hein.
Ben oui, bien sûr, bien sûr.
On ne dit pas où on est, ça c'est autre chose.
Non.
Ben, quand on dit une aire, il peut y en avoir plusieurs en fait pour un couple.
Ça fait partie des préliminaires, ça, chez les oiseaux en général. Hein.
Ouais.
La construction du nid, un moment important de leur vie, qui consacre leur union en fait, et leur engagement vers une reproduction de la vie.
C'est-à-dire qu'on achète la maison et ça les
sert. La maison convient, voilà. Et les aigles font des maisons, comme tous les oiseaux, peuvent en construire plusieurs dans leur grand domaine vital. Elles sont parfois rassemblées à quelques centaines de mètres, parfois tout près. Et on peut en avoir, nous, on connaît des sites où, pour le même couple, il y a une douzaine d'aires.
Oui, ils ont des résidences secondaires. Enfin, c'est
assez oui. Alors, et vous voyez le blanc.
C'est assez épaisse, hein, quand même.
Ah oui, elle est épaisse, là, oui.
Et donc, le blanc, c'est les fientes hein, que l'on voit. Donc,
Ce sont les fientes, ouais. Les jeunes devraient normalement tourner le croupion vers nous, vers le vide.
Oui.
Mais ce n'est pas toujours le cas.
Ah bah non, alors,
ça, plaf, ça va sur le mur.
Je comprends très bien.
Et ça crépille le fond, ce qui permet de les voir à l'œil nu, même. On les voit très bien à l'œil nu, ce que vous êtes en train de faire, Denis.
On peut aussi avoir des traces un peu ocre parce que là, on se dit que c'est le lichen qui va en profiter. Ça va le nourrir un peu, ces fientes qui vont dégouliner sur la paroi.
Alors, le lichen, c'est peut-être hyper azoté quand c'est tout blanc comme ça.
Ouais.
Mais quand il y a des traces de fientes qui contiennent de l'azote, ça favorise certains lichens, comme la xanthorie. La xanthorie qui est un lichen orange et qui est très nitrophile. Donc ça dénonce un peu les aires des oiseaux en général.
Ah, alors là, Christian, je ne sais pas si c'est le père ou la mère, mais il va atterrir là, à côté de notre aiglon.
Oui, il est passé à côté. Il est passé à côté, il n'atterrit pas. Non, parce que là, il a plus envie de lui dire, bon, maintenant, c'est l'heure, Tanguy, faut que tu y ailles, là.
Ouais,
tu vois.
Il fait ses mouvements, là, encore. Ses mouvements d'ailes, donc il se muscle.
Oui, il fait les battements d'ailes pour le jour où il va être obligé de sauter dans le vide, parce que là, c'est une aire qui n'est pas très haute, mais je ne voudrais pas tomber de là. Hein.
Il a droit qu'à un essai, quand même. Hein.
Il a droit qu'à un essai, oui. C'est le premier et le dernier pour lui. S'il se rate ici, il y a des chances qu'il arrive, parce que là, il n'y a pas une grande falaise. Mais le problème, c'est qu'il va être bourré dans les buissons là-bas dessous.
Mmh.
Et pour en sortir, un aigle royal, ça a des grandes ailes. S'il n'y a pas de vent, un débutant comme ça qui ne sait pas trop voler, c'est pas génial.
S'il y a un petit renard qui passe, hop.
Il peut être, effectivement, il est à la merci de la prédation. Et c'est pour ça qu'on voit au fur et à mesure des jours, quand il est parti, la recherche de perchoirs qui sont de mieux en mieux. Autrement dit, des perchoirs inaccessibles. Il ne va pas se percher sur un piton le premier coup. Il va plutôt se vautrer dans une prairie et récupérer, je l'ai observé à quelques reprises, et il faudra quelques jours pour qu'il arrive à maîtriser suffisamment le vol pour aller se poser dans une paroi ou sur un piton inaccessible, entre guillemets, en tout cas, aux prédateurs.
Comment va se passer sa vie? Il va y avoir un premier vol. Ok, on va se dire, t'as réussi mon petit gars. Bon, et après, il revient sur le même nid, il va tout de suite se nourrir tout seul ou bien il va continuer à quémander de la bouffe?
Il va quémander, les parents vont continuer de le nourrir un petit peu jusqu'à là. C'est le mois de juillet, fin juillet, là maintenant. Et il va continuer à rester dans le coin à peu près. Ce site est particulier parce que, comme vous le remarquez, c'est un site intéressant, parce que c'est un site très boisé autour. Donc une fois qu'il s'envole, il faut qu'il vole vraiment, parce qu'il a peu de rampes de lancement ici.
Exactement.
Il est dans les bois, quoi. Alors qu'en haute montagne, s'il s'envole, il va se poser dans une pelouse, il y a de l'air pour lui, c'est bon, il risque pas de tomber dans les arbres au milieu de là où on est, et puis de pas s'en sortir, quoi.
Il faut ici, on va dire, parce que nous sommes dans les Alpes, dans ces hautes Alpes, il faut 40 km² à 50 km² pour avoir son territoire, ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple, dans le Massif central, où il y a peut-être moins de nourriture, il faut un espace plus grand. Hein.
Oui, alors ça dépend de la nourriture, bien sûr, mais pas que. Ça dépend aussi du relief, du cloisonnement, parce qu'ils ne s'aiment pas les uns les autres. Ils n'aiment pas entrer en contact, ils sont très agressifs avec les intrusions de congénères, et même d'autres rapaces parfois. Du coup, si la montagne est cloisonnée, il est possible qu'il y en ait un qui niche là où nous le regardons, puis il y en a un derrière, bien que ce soit pas très loin. Par contre, dans des endroits où il y a de la vue très loin, ils vont sans arrêt se voir et se foutre l'un sur l'autre, quoi.
Pour délimiter son territoire, on sait que les oiseaux pratiquent le chant et eux, ils pratiquent le feston, donc ils festonnent.
Ils pratiquent le vol. Dont le feston.
C'est ce qu'on appelle le feston, donc.
Le feston, alors le feston, c'est un vol particulier qui est pas uniquement chez l'aigle royal, d'ailleurs. Mmh. On voit ça chez la buse, j'ai vu chez l'épervier aussi. L'oiseau pique, mais à très grande vitesse, et puis arrivé à un certain moment, il écarte progressivement les ailes, il s'appuie sur l'air, il remonte emporté par son élan. Et cette remontée est très spectaculaire, et en fin de remontée, il donne quelques coups d'aile pour gagner quelques mètres encore, et puis de là, il va basculer, à nouveau, quelques coups d'aile peuvent s'élancer à la descente, replonger. Donc, cette trajectoire dessine effectivement des festons. C'est pour ça qu'on appelle ce vol en feston, et qu'on a même créé le néologisme festonner. Voilà.
D'accord.
Okay. Ils font ça surtout quand il y a des intrus. C'est une façon de dire d'éloigner, de dissuader les autres de venir, quoi. Alors, ça joue peut-être un rôle aussi dans les liens du couple, c'est possible. Et les deux partenaires le font.
Alors Christian, là je vous vois donc à la fois l'œil dans la longue vue puis l'appareil photo. Les aigles ont une chance absolument inouïe. Aujourd'hui, il faut à peu près entre 6 mois et 1 an pour un rendez-vous chez un ophtalmo en France. Très bien. C'est pas leur cas parce que eux vraiment, tout est dans l'œil. On va oublier l'odorat, le goût, le toucher qui sont inexistants. Mais tout est dans l'œil. C'est-à-dire qu'ils y voient, je crois, 5, 6 fois, 10 fois mieux que nous.
Alors le nombre de fois, je sais pas. Ouais. Ils voient bien mieux que nous. Et je fais souvent cette comparaison avec les appareils photo numériques maintenant, où il y a les pixels. Donc les pixels, ce sont ces petits carrés qui composent les images. Plus il y en a pour une surface donnée, plus l'image est précise. Et nous, si dans un mètre carré, des petits carrés et des petits pixels, on en a 200, eux, ils en ont peut-être 2000. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il y a une finesse qui leur permet d'avoir des performances visuelles extraordinaires.
Mais lorsque je suis à 1500 mètres d'altitude, je suis un aigle, je peux repérer un lièvre.
Ah oui, mais ça, je l'ai observé, ça. Et j'ai vu plonger un aigle, partir de haut, plonger tout droit. Alors là, il a fait un chousse, les cannes sous le bras, comme on dit. Hein, il a disparu derrière les arbres, et quelques secondes après, il est ressorti, il avait un lièvre. Il avait vu le lièvre depuis là-haut, et il a foncé dessus, il l'a chopé.
Et les plumes sont des capteurs pour eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent sentir quoi avec ?
Effectivement, les plumes leur renvoient. Alors, elles ne sont pas énervées au point de leur renvoyer directement, mais les mouvements des plumes sur leur corps, sur leurs nerfs, leur permettent de ressentir les choses et de corriger en fonction de ce qu'ils veulent faire.
Le changement de vent, la pression de l'air.
La pression, pendant la vitesse. Ils sont capables des ailes de les tordre, de même que les 12 plumes de la queue. Ils ont 12 plumes, les oiseaux en général. Et de les tordre, ce qui leur permet de faire des virages.
Donc, ce sont des indicateurs de vol, quoi.
Et aussi des acteurs de vol, puisque ces éléments-là participent à la progression, aux acrobaties, bien entendu.
Inutile d'avoir un tatouage et un aigle sur le dos pour écouter la suite de cette émission. C'est toujours L'Aigle, les aiglons, avec Christian Couloumi, dans les Hautes-Alpes.
Regardez, Denis, là, je suis en train de zoomer dessus. Hop, le voilà. Alors, on voit son bec jaune. Hein. Là, il nous regarde, il est inquiet. Ah, il a vu quelque chose, là, tiens.
Oui, bah, c'est peut-être nous, hein.
Je sais pas s'il nous a vu, là, on est quand même bien planqué.
Coucou, bonjour. Et on peut dire que notre aigle, il revient de très loin, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, il était accusé absolument de tout, de bouffer trop de gibier, de manger les enfants, c'était du mauvais sort, Buffon lui avait fait un tableau tout à fait catastrophique. Donc ça n'a pas été simple, hein, quand même, la vie de l'aigle.
C'est pas que la vie de l'aigle, c'est la vie du sauvage, de la faune sauvage, de la montagne, c'était jusqu'à la fin du XIXe d'ailleurs, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Et c'est vrai que les persécutions, avec le développement des armes dont les hommes se sont dotés, eh bien, ils ont été chassés de leur territoire. Avec eux, c'est le cas des loups, c'est le cas de pas mal de rapaces. Ouais. C'est le cas du gypaète barbu, mais les aigles, évidemment, font partie de cette triste histoire.
Ces aigles-là, en fait, on les retrouvait en 1900 en Allemagne, en Autriche, il y en avait même du côté de Fontainebleau, on en retrouvait en Champagne, et en fait, les territoires qui leur restaient, c'était cette montagne où nous sommes.
C'était, je vais dire au pluriel, ces montagnes reculées, où effectivement, la vie est la plus dure, et sans doute que les humains, à l'époque, ne pouvaient pas accéder à leur nid pour les détruire, ne possédaient pas d'armes à feu. Donc, ils ont subsisté dans des vallées profondes. Depuis là, ils se sont étendus. Et de nouvelles misères se sont abattues sur les rapaces en général. Il y a deux choses. Il y a le poison, intentionnel ou non, et il y a les câbles aériens. On le sait, l'aigle a une très bonne vue. Mais dans certaines circonstances d'éclairage, quand toute l'attention d'un rapace chasseur comme l'aigle royal est tendue vers une proie ou contre un congénère qu'il veut chasser, eh bien, il lui arrive de percuter des câbles. Alors, les câbles, c'est à la fois la percussion, parce qu'il arrive qu'il ne les voit pas, dans le brouillard par exemple, mais aussi qu'il s'électrocute en se posant sur certains pylônes qui ne sont pas protégés. Donc ici, en Haute-Durance, la société RTE a créé une ligne pour remplacer celle qui existait, une ligne de très haute tension qui est remontée un peu dans la montagne, et les règlements aujourd'hui font qu'il y a eu l'obligation de prendre en compte la biodiversité en général.
Pour autant, est-ce qu'on va détourner une ligne? Parce qu'en général, c'est quand même aussi l'efficacité qui doit primer. Donc.
Alors, on a des tracés GPS, parce que les aigles ont été capturés, on leur a posé un GPS sur le dos, et puis les jeunes, au nid, il leur a été également posé un GPS sur le dos. On connaît les tracés. Et si je vous dis ça, c'est que les tracés, au bout d'un certain temps, c'est des petits traits bleus comme ça qui montrent ce qu'ils font. Donc, on voit très vite qu'il se dessine un territoire qui est assez concentré, et puis à l'intérieur de ce territoire, tout est bleu. Ça veut dire qu'ils vont partout. D'accord. Donc on aurait changé la ligne, que ça ne changeait rien. Ouais. Le mieux, c'est d'équiper la ligne d'éléments de visualisation qui permettent aux oiseaux, de pas que les aigles c'était le témoin de tout ça, de voir et d'éviter d'entrer en collision. Parlons de percussion, parce que collision, il faut que les deux se déplacent.
Alors, il y a gain et perte, c'est-à-dire que là, il y a cette nouvelle ligne, mais il faut quand même préciser qu'il y a 100 km de lignes aussi qui vont être démontées. Donc.
Qui sont déjà démontées en grande partie, notamment une ligne qui était vraiment une injure au paysage, celle qui passe le col du Galibier, que vous connaissez bien. Donc, depuis la Guisane, depuis les derniers villages à peu près, jusqu'à Valoir, la ligne va être démontée. Ça, c'est pas mal.
Bon, donc on va dire que là aussi, EDF et RTE leur doivent plus que la lumière.
Oui, disons que ils ont limité la casse, en gros. Hein, bon, les aménagements, on peut en discuter. Il y a eu effectivement des mouvements de protestation qui se sont exprimés, que l'on peut comprendre. C'était enterré, enfoui ou bien aérien. Bon, c'est l'aérien qui a prévalu. On aurait pu dire, oui, ben, puisqu'ils ont fait l'aérien, on fait rien du tout. C'est pas l'option qu'a pris Envergure Alpine. Notre option, ça a été de... on est devant un fait, on va faire pour que ça se passe le mieux possible pour les rapaces. C'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Et au-delà de ça, tout ce qu'on va apprendre servira partout.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
C'est chouette comme métaphore, non?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Et alors, prédateurs de choc, on le sait, on parle des lièvres, des marmottes, ça peut être aussi du renard, du grand tétra, pourquoi pas si on est dans les Pyrénées, peut-être du jeune chamois s'il n'est pas trop long.
C'est sûr. Le jeune chamois, oui, il y a des endroits où il y en a beaucoup, et c'est là qu'ils vont taper, c'est le menu, c'est chamois, petit chamois. Hein. Et puis tiens, il y a les gouttes qui viennent nous rejoindre.
Voilà.
Et lui, j'y suis resté l'autre fois sous les gouttes avec eux. Alors j'étais bel et bien trempé là, j'en avais jusqu'aux os. Puis eux, ils baissaient la tête, ils ressemblaient un peu à une poule mouillée. Puis c'est un peu ça quoi.
Et bien vous savez que c'est exactement ce que je ne souhaite pas, que nous ressemblions à une poule mouillée.
Non.
Et là l'orage, ça y est, vous m'avez emmené
pour
en point orage.
C'est la pluie, c'est pas l'orage.
Non, je suis d'accord, c'est la pluie.
Tranquille, tout le temps devant nous là, c'est super.
Bon, en tout cas on lui souhaite un très bon vol à celui-là. Voilà, une très jolie vie.
Oui, alors il y en a quelques-uns qui ont été capturés et puis marqués, équipés de GPS, et on a pu voir leur trajet. qui peuvent les emmener très loin, en fait. Au début, ils tournent un peu autour du site de naissance, et puis ils s'éloignent de plus en plus.
Pour chercher leur territoire.
Ils se baladent, ils découvrent, ouais. Mais ils peuvent aller très loin. Et on en a vu qui partaient du Champsaur, c'est pas très loin d'ici, et qui allaient au fin fond de la Suisse, là-bas. Puis ils peuvent revenir comme ils peuvent ne pas revenir. Voilà comment se passe la dispersion des aigles et la reconquête des territoires perdus à cause de nos gestes un peu malheureux, des gestes malheureux de nos aînés et de certains de nos contemporains parfois, malheureusement.
Christian Koudoumi se transforme en Mary Poppins et ouvre le parapluie. Ah oui, bien, belle ombrelle. Qu'est-ce qu'il y a d'aigle en vous, là ? Vous voyez, ou quelque chose de rapace chez Christian Koudoumi ?
L'envie de voler.
Oui, tout simplement. Oui. Mais c'est quand même pas avec des moineaux que vous avez envie de le faire. Vous avez plutôt envie de le faire avec des...
Ah bah, ils planent pas, les moineaux.
Non, et non, voilà.
Vol ramé, ça m'intéresse pas trop. Non.
C'est ça que je veux dire.
Oui, oui. Non, j'ai assez ramé comme ça. Non, c'est bon. Non, je préfère planer, cramer. Hein. Dans tout ça, c'est vraiment parcourir l'espace, en fait. C'est ça, voler. Sans effort, sans bruit. Parce qu'ils volent sans bruit quand ils vont pas trop vite. Quand ils vont vite, ça fait beaucoup de bruit. Quand ils sont 200 à l'heure, ça fait du bruit. Mais quand ils vont pas vite, ça fait pas de bruit. C'est très silencieux. Et si on n'est pas très attentif, on le trouve pas dans le buisson, là.
Non, parce que là, il y a du mimétisme. Hein.
Un peu, ouais. Le jeu de l'ombre et de la lumière, là, entre les rochers qui sont à l'ombre et ceux qui sont éclairés par la lumière, il n'y a pas de soleil puisque c'est un peu orageux, il y a quand même une grosse différence, un gros contraste. Et ils sont dans le contraste. Donc si on regarde un peu vite, on peut penser que bon, c'est un caillou noir. Hein, c'est vrai, on peut penser ça.
Oula !
Cette onde, là.
Oui.
On va un peu zoomer, là. Oh, ça, si c'est joli, pour la belle bête.
Il a mis combien de temps pour arriver à ce poids-là?
Il a dû naître, on est le 20 juillet à peu près, il a dû naître vers début mai, il y a 80 jours, 2 mois et demi, 3 mois. Et il a cherché un truc à bouffer. Là.
Et donc la frangine ou le frangin est déjà parti.
Ouais, il est parti, apparemment il est plus dans le... Alors il pourrait être couché dans le nid, là, dans la bagouze.
Ah oui, il a été bagué celui-là.
Ouais, celui-là a été bagué. Fait partie du programme.
Cher Christian, si ce n'est pas totalement de l'orage, c'est quand même franchement de la pluie là maintenant.
Ça commence doucement.
Voilà, donc on va se quitter. Ouais,
vous voulez lâcher là, Denis ?
Oui, oui.
Il me semble que je vous sens.
Ce n'est pas le manque d'intérêt là.
Tout moulu.
C'était là, vous avez vu ce que j'ai sur moi ? C'est tout.
Ouais,
j'ai
aussi.
Rien. Oui, c'est bien.
Mais on a le pébroc, hein,
là, on a le pébroc. Ouais, voilà. Et quand même, cadeau de fin, Christian, juste avant de partir, ou moi faites du kiouk-kiouk. Juste un petit peu de kiouk.
Ça fait un moment que vous tenez à ce kiouk-kiouk. Hein.
Kiouk-kiouk. Ben voilà. Kiouk-kiouk. Grand merci. Et même l'aiglon vous regarde. C'est top, ça.
Ouais, mais ça, c'est pas bien. Je le dérange. Je l'ai interpellé. Peut-être que je lui ai dit quelque chose dans le langage des aigles.
Regarde. Il est loin. Il n'est pas traumatisé, là. Non.
Il est trop loin, là.
Bon. Et ben à bientôt, Christian Koudoumi.
À bientôt, Denis. Au revoir.
Et vous donnerez des nouvelles de l'aiglon. Hein.
Et bien sûr, sans faute.
Parole de Piaf, ça continue avec un 6e épisode avec le cygne. D'ici là, envolez-vous bien.